poche. Non, je ne suis pas bibliothécaire jeunesse, donc je suis extrêmement intimidée d'intervenir devant vous. Mais effectivement, je suis responsable d'une bibliothèque municipale, celle de Reims, qui compte 7 bibliothèques et médiathèques, et 6 d'entre elles sont dotées d'une section jeunesse. Alors j'ai quelques photographies, vous verrez que derrière ce terme, on range des choses extrêmement diverses. Hein. On a des bibliothèques qui font 70 mètres carrés, donc vous imaginez que la section jeunesse est en rapport, donc très peu de mètres carrés, et là, pour le coup, difficile de faire coexister le tout public et la classe qui arrive. Et puis, des établissements de taille plus respectable où le fonctionnement est un peu différent. À ces 6 bibliothèques dotées d'une section jeunesse s'ajoutent chez nous 3 bibliobus, dont 2 bibliobus scolaires. Là aussi, des institutions peut-être d'un autre temps, mais comme nous avons la chance d'avoir cela chez nous, je vous en dirai un mot. Ces bibliobus scolaires qui donc desservent les écoles primaires éloignées de toute bibliothèque et médiathèque, et ils font encore du prêt direct. Alors je précise aussi pour la petite histoire, puisqu'on avait commencé par un rappel historique, que notre première section jeunesse date de 1938 à la bibliothèque de Reims, qu'elle avait été conçue sur le modèle de la bibliothèque de l'heure joyeuse, et le conservateur de l'époque s'en félicitait, mais qu'elle avait longtemps dû se contenter de locaux ridiculement petits et mal fichus, récupérés de locaux techniques au sous-sol de notre bibliothèque Carnegie. Donc on a à la fois connu la précocité, mais aussi des conditions matérielles peu en rapport avec la noblesse de la fonction de bibliothécaire jeunesse. Notre histoire était donc assez ancienne. Elle a, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup évolué à l'occasion de l'ouverture en 2003 de 2 médiathèques. La médiathèque Jean Falala, qui est au centre-ville, et la médiathèque Croix-Rouge, qui, elle, est située dans un quartier en ZUP. Alors, le titre de ma petite contribution n'est pas de moi, et il est donc mission, rôle et compétences, l'organisation de l'offre et de la médiation. Donc en fait, comme pour une disserte, je suis partie du titre et j'ai essayé de traiter au mieux ce vaste sujet en 40 et quelques minutes. Donc voilà, je pense que en fait ce que je vais vous dire va forcément vous paraître très près de votre quotidien, puisque comme vous êtes aussi sur le terrain, voire même plus que moi, on devrait s'y rejoindre. Alors la mission, ben, pour moi effectivement, vu de mon bureau situé au premier étage de la médiathèque, la mission de nos sections jeunesse, c'est d'accueillir le jeune public, je reviendrai là-dessus, et de lui proposer des documents adaptés à sa tranche d'âge. Comme les autres bibliothécaires, là je rejoins le propos initial, le bibliothécaire jeunesse est un médiateur entre des collections et un public, ou plutôt des publics. C'est vrai que moi, spontanément, c'est le terme de médiateur qui m'est venu à l'esprit. Et là où je pense qu'il y a une spécificité, c'est cette fameuse diversité des publics. Les enfants, bien sûr, mais pas que. Alors, je vous dirai un peu comment ça se traduit chez nous. Alors, les enfants, déjà, ils représentent une très large part du public de notre bibliothèque. Hein, aujourd'hui, à Reims, 22,5% de nos 36 000 inscrits ont entre 0 et 14 ans. Et les mineurs, d'une manière générale, représentent plus d'un tiers de nos inscrits, hein, et plus encore de nos fréquentants. Si on considère que nous touchons à Reims 17% de la population, ce qui est dans la moyenne, le pourcentage monte jusqu'à plus de 30% pour les jeunes, jusqu'à 15-20 ans. Donc on pourrait presque dire que le public jeunesse est surreprésenté. À vrai dire, quand on regarde et qu'on compare la tranche d'âge de la population et notre schéma en bibliothèque, ce qui manque cruellement chez nous, ce sont les seniors. Alors que spontanément, on se dit toujours, les personnes âgées, ils sont à foison dans les bibliothèques, et bien point du tout. Mais c'est vrai que si on s'intéresse au public des enfants et que ça nous paraît préoccupant, c'est parce que dans la tranche des 15-25 ans, donc où je vous disais on frôlait les 30%, c'est là tout de même que très rapidement on voit qu'on perd d'année en année des lecteurs. D'où l'importance de leur donner l'habitude et le goût de fréquenter la bibliothèque aux plus jeunes. Alors la particularité des sections jeunesse, effectivement, est d'avoir affaire, en ce qui concerne les enfants, à des âges extrêmement divers. Pour nous, c'est 0-16 ans. forcément, leur développement, leurs demandes sont extrêmement différents. Et je sens bien, et ça a été dit, je crois, ce matin, que certaines de mes collègues bibliothécaires jeunesse sont tout de même beaucoup plus à l'aise avec telle tranche d'âge qu'avec telle autre. Et c'est alors, je pense, la force du collectif que d'avoir des collègues en pointe dans un domaine qui montrent la voie aux autres. Et ça, je veux dire, c'est aussi la chance dans un gros établissement comme le nôtre d'avoir une équipe jeunesse suffisamment étoffée, je reviendrai un peu sur sa composition, pour permettre d'avoir ses affinités avec tel ou tel public. Et ça a été le cas, par exemple, en ce qui concerne, nous, les bébés lecteurs. Alors, nous, c'est pas 1996, date à laquelle on a commencé à s'y intéresser, hein, c'est beaucoup plus tardif. On a commencé à s'y intéresser il y a 4-5 ans environ. Et l'initiative est venue, ça m'a semblé intéressant, des collègues de quartier. En fait, ce sont les collègues des bibliothèques de quartier et surtout de la médiathèque Croix-Rouge, qui était donc dans un quartier de ZUP, qui avaient l'impression que pour casser la spirale infernale de l'échec scolaire et donner les mêmes chances à tous, il fallait promouvoir le livre auprès des plus jeunes. Et surtout, ça nous paraît une évidence, ne pas attendre l'entrée en maternelle et a fortiori l'entrée en CP quand ils savent lire tout seuls. Elle constatait aussi, ses collègues jeunesse sur le terrain, que bon nombre de femmes d'origine étrangère ne seraient jamais venues en bibliothèque par elles-mêmes, mais que pour la réussite de leurs enfants, et on sait que dans certaines cultures, l'enfant roi, c'est vraiment un concept important, et lui donner le maximum de chance, ça garde vraiment toute son importance. Ces femmes donc d'origine étrangère ne seraient pas venues seules, mais que pour leurs enfants, elles étaient prêtes à venir en bibliothèque, même si elles n'empruntaient pas pour elles et n'en étaient pas forcément capables par une non-maîtrise du français, elles faisaient cette démarche en tout cas pour leur enfant. Soit pour venir emprunter, soit pour assister à une animation. Et donc, il semblait aux collègues jeunesse qu'à travers le tout petit, c'était aussi une chance d'atteindre les parents avant que, vers 6-7 ans, l'enfant soit livré à lui-même ou au grand frère, grande sœur, et que donc, à ce moment-là, effectivement, toute chance de toucher les parents à travers l'enfant disparaisse. Alors, des collègues avaient suivi des formations auprès d'Accès. En sont revenus absolument enchantés. Elles nous ont fait organiser une formation en intra avec Accès, donc qui est venue sur place et qui a organisé une formation assez intéressante où le principe c'était moitié de bibliothécaires et moitié des professionnels petite enfance pour discuter et monter un projet ensemble, donc assistante maternelle, etc. Donc on rentrait dans le concret. Et puis ensuite, c'était parti. Et effectivement, quand je dis c'était parti, ça a commencé par l'achat de coussins et de tapis. Donc je confirme bien, au niveau de la direction, on commence à en entendre parler quand il y a le besoin d'acheter coussins et tapis. Et là, on sent qu'on est déjà parti dans l'action de terrain. Alors, je dois dire qu'il y a quand même eu sur cette question des bébés lecteurs, alors peut-être que pour vous ça paraît évident en fait aujourd'hui, 6-0-3 ans, il y a quand même eu des réticences et des moqueries d'une partie de l'équipe, au sein de la section jeunesse, mais aussi des collègues adultes qui étaient sceptiques, surtout que dans le même temps on leur disait, alors ce sont des bébés lecteurs, mais bien sûr c'est pas pour leur apprendre à lire, enfin c'est un peu comme les bébés nageurs, en fait bien sûr on sait bien qu'ils apprennent pas à nager, et puis surtout les bibliothécaires adultes trouvaient que il y avait peut-être d'autres priorités, d'autres publics à toucher prioritairement, d'autres enjeux, ou alors ils s'estimaient pas assez formés, comment parler à ces enfants. Donc il y a eu des réticences, mais on a eu un phénomène tache d'huile, hein, boule de neige, hein, c'est-à-dire on a fait des collègues très militants, je ne sais plus si on peut dire le terme, on montrait que c'était pas si compliqué, que tout le monde se faisait plaisir en accueillant ces bébés, que ça faisait du bien à tout le monde. Je reviendrai sur cette notion de plaisir dont on n'a pas tant parlé que ça ce matin, je trouve, et qui me semble, moi, être une caractéristique des sections jeunesse. Mais... aujourd'hui, au bout de 4-5 ans, en fait, toutes nos bibliothèques, toutes nos sections jeunesse font de l'accueil des 0-3 ans, alors sous des formes diverses, hein, certaines le font sur place, 4 d'entre elles, ou hors les murs, puisque 2 d'entre elles ont choisi plutôt d'intervenir sur le terrain des crèches, des haltes-garderies ou des PMI. L'action donc pour les bébés lecteurs, je le disais tout à l'heure, devait avoir un double objectif, répondre à une nécessité de vis-à-vis de l'enfant, mais aussi toucher les adultes. Et c'est vrai que dans le domaine du bébé lecteur, elles ont aussi en parallèle développé une action plus pédagogique en direction des publics adultes gravitant autour des tout-petits. Et ça me semblait effectivement extrêmement important, j'y reviendrai. Elles ont fait de la pédagogie. Aujourd'hui, d'ailleurs, elles sont parfois un peu déçues parce qu'après plusieurs années dans la même crèche, elles se disent, mais quand même, ça fait des années qu'on indique aux assistantes maternelles tout le bien de cette action autour du livre. Elles auraient aimé passer le flambeau. Et c'est un peu là qu'elles sont déçues parce que, si elles ne continuent pas à desservir les mêmes crèches, elles ont l'impression que malheureusement l'action va s'éteindre. Et je pense qu'aujourd'hui, je les incite d'ailleurs à essayer de trouver des relais vraiment et formaliser peut-être leur action de militantisme sous une action de formation. Elles devraient être des formatrices en fait, parce que on a sur une ville comme la nôtre de 180 000 habitants beaucoup trop de crèches, de halte-garderies et pas assez d'agents pour porter la bonne parole partout. Enfin, c'est un peu pareil, je pense, chez vous. Cette action, donc, tout au long de l'année avec les tout-petits, a trouvé, c'était l'image qui est ici, a trouvé un point d'orgue tous les ans avec une animation qui dure 2 mois, qui s'appelle Grandes histoires pour petites oreilles, et qui est un temps fort où on rassemble à la fois ces actions de nos bibliothécaires, mais la venue de conteurs, de spectacles, de projections, pour montrer que cette action pour les tout-petits, ce sont des moments ludiques, et faire un coup de projecteur sur cette action qu'elle mène tout au long de l'année. Alors, ces animations sont plébiscitées par le public. C'est vraiment un grand succès, aussi bien donc côté public que côté bibliothécaire. Et j'ai vraiment l'impression que ça leur fait du bien au moral, parce que c'est vrai que l'avantage avec les 0-3 ans, c'est qu'ils ont tout de suite l'air contents. Leurs parents aussi. Ça change forcément des plus grands qui font la tête ou qui vous regardent pas. Donc, rien que pour ça, je le recommande à ceux qui ne se seraient pas encore lancés. C'est une action qui fonctionne. Alors, à l'opposé chronologiquement, effectivement, les adolescents, là, j'allais dire, on est à Reims pas bon du tout. Enfin, pas bon du tout, c'est peut-être pas ça. On a bien vu qu'ils focalisaient, ces ados, l'attention des bibliothécaires et notamment des bibliothécaires jeunesse. Répulsion, intérêt. À Reims, on les a pas vraiment intégrés dans nos réflexions sur les problématiques bibliothèque jeunesse. On n'a pas, par exemple, retenu l'option de mettre un coin ado dans nos médiathèques qu'on a alors programmées dans les années 96 et ouvert en 2003. À titre personnel, moi, je ne suis pas sûre du tout que les bibliothécaires jeunesse soient les mieux placés pour accueillir le public des ados. Il me semble que c'est un peu comme si on envoyait les ados chez le pédiatre. Enfin. Alors, on peut en discuter, hein. Mais je pense que notre côté femme maternante, c'est moyennement crédible, en fait, avec ce public qu'on essaye d'attirer vers l'âge adulte. Enfin, voilà, mais on peut en débattre, hein. Voilà. Et nous, dans l'organisation des espaces, par exemple, de la médiathèque Jean Falala, en fait, on a une section, je sais pas si j'ai quelques... Alors, on peut-être pas être dans le bon ordre. Alors, voilà notre coin des tout-petits. Vous voyez, on a même l'allaitement. Vraiment des choses sympathiques. Alors, je reviendrai là-dessus. On propose quelques animations pour ados, mais... alors, je retrouve pas mon... Ah, mes photographies. La médiathèque Jean Falala est organisée avec 2 sections jeunesse, un étage pour les 0-7 ans, puis ensuite il y a un escalier qui monte en mezzanine pour les 7-13 ans, et puis ensuite on a une image qui évoque la vie, ils grandissent et donc ils montent en section adulte. Voilà. Donc ils peuvent bien sûr continuer à fréquenter les sections pour les plus jeunes, hein, comme tout le monde, mais on n'a pas de coin spécialement pour les adolescents. Et moi, je trouve que ce parti se défend, c'est-à-dire on les emmène à une certaine autonomie et un comportement adulte, et donc physiquement, on les conduit vers nos sections adultes. Voilà. Alors, 2 petites bibliothèques de quartier ont toutefois développé un petit fonds étiqueté ado. Hein. Et comme je le disais, il y a quelques animations qui sont peut-être plus en direction de ces tranches d'âge, alors ado ou pré-ado. Notamment, on a un club de lecture. Là, vous avez le petit logo qui avait été créé pour eux, peut-être un peu enfantin, mais qui est donc un club de lecture pour les 11-14 ans. Alors, bien sûr, qui est forcément alimenté avec des bon lecteur, enfin au sens gros lecteur, hein, ado, prado. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ils lisent des documents, ils en font des toutes petites fiches conseils et on les affiche sur un mur à côté des documents, ce qui fait que on est dans la médiation, c'est eux qui conseillent à d'autres jeunes des titres qui leur ont plu. Et il me semble que là aussi, c'est plus crédible que si c'est nous qui indiquons. En tout cas sur cette tranche d'âge. Et puis ça nous fait un petit échantillonnage de jeunes avec qui on peut discuter livres et bibliothèques, ce qui n'est pas désagréable. On a aussi des petits goûters philo pour les 9-12 ans, donc là on est vraiment un peu plus tôt. Même chose, où grâce à ces animations, on arrive à établir un contact et à faire des animations qui ont l'air de leur correspondre. À côté de ça, on a essuyé des vrais échecs, comme un club de lecture de science-fiction. On a arrêté au bout de 3-4 séances parce qu'il n'y avait que les bibliothécaires qui venaient au rendez-vous. Ça a laissé des traces. Hein. Alors, on va revenir au combat, je pense, l'année prochaine, parce que sont extrêmement motivées, nos bibliothécaires, et donc elles vont sans doute lancer un atelier manga et des essais en direction du jeu. Mais bon, on voit bien que, voilà, on louvoie et on contourne. Et en tout cas, c'est loin d'être acquis. On a beaucoup parlé du public scolaire ce matin. Alors peut-être je vais vous donner quelques informations sur ce public à Reims. On a donc deux volets dans cette action des scolaires. Dans les médiathèques et bibliothèques de quartier, on a un accueil régulier de classes tout au long de l'année sur des créneaux horaires généralement réservés. Matin, début d'après-midi, effectivement, dans les petits établissements, hein, uniquement dans les petits établissements, ça s'accompagne de la fermeture des espaces. Mais quand je dis petits établissements, c'est vraiment des sections qui font 50 mètres carrés. Enfin, les bibliothèques font 100 mètres carrés ou 140 mètres carrés. Donc voilà, c'est difficile de faire coexister les deux. En revanche, à la médiathèque Jean Falala, par exemple, le choix avait été de ne pas faire d'horaires différenciés adultes et jeunes, notamment parce que même quand les enfants sont à l'école, c'est vrai que ces sections jeunesse, on le voit bien, sont aussi fréquentées par des parents avec des très jeunes enfants, ou pire, par des parents seuls qui veulent emprunter pour leurs enfants. Bon, je plaisante, mais ils ont droit. Et puis, pourquoi pas des adultes qui redécouvrent les joies de la littérature pour la jeunesse. Cet accueil, il se fait sous différentes formes. Dans les bibliothèques de quartier, les visites sont vraiment très régulières, toutes les 3 à 6 semaines, pour du prêt aux classes, avec bien sûr une présentation de la bibliothèque et une lecture. Alors que dans les médiathèques, on avait bien décidé de se dégager de cette desserte asservissante des scolaires façon traditionnelle, et donc l'ouverture des médiathèques s'était accompagnée d'un changement. On disait aux enseignants, on vous proposera plus désormais que 3 visites découvertes dans l'année, sans prêt. Une visite découverte de la bibliothèque d'une manière générale, du livre, de son mode de classement, explication de la DIWE, tout ça pour rendre l'enfant autonome et lui donner envie de revenir tout seul. Alors ça n'a pas plu du tout aux enseignants. Ça, vous vous en doutez. Repartir sans livre, rien de plus frustrant. Et presque 7 ans après, on commence nous-mêmes à se reposer la question de est-ce que c'était une si bonne idée que d'empêcher en fait les enseignants de repartir avec des livres. Parce qu'en fait, le principe, c'était ils avaient une carte de classe et ils peuvent bien sûr revenir tout seuls et emprunter des livres pour leur classe et puis ensuite les faire circuler. Mais ils nous disent, et ce n'est pas faux, que en fait c'est quand même beaucoup plus intéressant quand c'est l'enfant lui-même qui choisit et que là pour le coup, voilà, l'enseignant est pas prescripteur, c'est vrai. Donc on est en train de revoir un petit peu ça. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça pose tout le problème de notre positionnement par rapport au scolaire, que je trouve, alors moi, de façon un peu décentrée, assez ambigu. C'est vrai que l'école nous amène des enfants en grand nombre. Nous, par exemple, en 2009, on a accueilli 477 classes de primaire sur l'ensemble du réseau. Ça veut dire quand même 12 000 gamins qui arrivent dans nos bibliothèques grâce à ça, et c'est une vraie chance. D'autant que l'intérêt de cette action par rapport au scolaire, c'est qu'ils viennent de tout milieu, de tous les quartiers, et pour beaucoup, ils ne seraient jamais venus en individuel. Là où c'est ambigu, c'est que nous, on souhaiterait s'adresser en fait à l'enfant en tant qu'individu et le retrouver en fréquentation individuelle, et il nous arrive en groupe. je dis pas en troupeau, mais enfin, il nous arrive, voilà, où il est extrêmement difficile de s'adresser à chacun et de faire du cas par cas en fonction de ses goûts. Alors, on essaye tout de même de valoriser déjà ce passage à la bibliothèque. Et notamment, maintenant, on distribue aux enseignants une petite feuille qui est à glisser dans les cahiers de vie et les carnets de correspondance pour qu'au moins les parents sachent que l'enfant est allé en bibliothèque, parce que souvent, ils le savaient même pas. On glisse aussi une petit formulaire d'inscription, hein, au cas où il prendrait l'enfant l'idée et l'envie de se réinscrire en individuel, ce qui me paraissait bien. Voilà. C'est vrai que l'autre ambiguïté, on en a un peu parlé ce matin, nous on a à cœur de promouvoir la lecture plaisir, celle qui fait réfléchir et grandir, mais aussi qui détend et qui fait rêver. Or les enseignants sont quand même très souvent dans un rapport très scolaire avec l'écrit, avec lequel on n'est pas toujours très très à l'aise. On voit bien qu'à ce moment-là, quand il est accompagné de l'enseignant, lire égale rébarbatif égale échec, hein, et c'est exactement cela dont on souhaiterait se démarquer. Enfin, on souhaiterait souvent mener un projet pédagogique et original avec chaque classe, faire de la valeur ajoutée, et bien souvent on a quand même l'impression que vis-à-vis les enseignants nous considèrent comme une activité gratuite dont on peut user et abuser, qui occupe les classes et voilà. Au pire, ils nous laissent gérer la classe. Bon, alors il faut pas généraliser, mais c'est vrai que souvent, moi j'entends beaucoup de mes collègues qui sont un peu frustrés par cette action auprès des enfants qui n'est pas complètement aboutie. En tout cas, ils aimeraient imaginer autre chose. Alors cette autre chose, on l'obtient sur le terrain de l'animation, auquel je referai référence à nouveau. L'animation, c'est un secteur qu'on a beaucoup travaillé, sur lequel on s'est beaucoup investi tous collectivement à la Bibliothèque de Reims. Et c'est vrai que dans le domaine des scolaires aussi, c'est grâce à l'animation qu'on peut aller plus loin avec certaines classes. Alors vous me direz toujours les mêmes enseignants les plus motivés, enfin je pense que vous faites pareil. On repère l'enseignant dont on est sûr qu'il va faire... une présentation en amont, qu'il va faire lire les livres un peu en amont de la rencontre avec l'auteur, enfin bon, voilà. Et grâce à l'animation, on peut faire des projets avec certaines classes, mais à ce moment-là, pas avec les 477 que je mentionnais précédemment, on peut aller plus loin. Alors, c'est assez classique, mais donc on a un programme d'invitation à des auteurs jeunesse hein, toute l'année, dans tous les genres, c'est-à-dire des illustrateurs, des auteurs de romans, mais aussi de documentaires, voire des auteurs de théâtre. Et puis on a un deuxième temps fort qui était le Primé des écoliers, qui est un prix de littérature pour la jeunesse. Alors, je ne sais pas si je vais retrouver quelques photographies de l'exiguïté de certaines de nos sections jeunesse. Alors, bon là, comme elle est coupée, vous ne vous rendez pas compte, mais vraiment très petite. Voilà, ça peut être une section jeunesse encore dans une de nos bibliothèques de quartier. Hein, c'est... Autre bibliothèque qui fait 140 mètres carrés avec un petit coin pour les tout petits. Bon, bah c'est on fait avec voilà avec ce qu'on a. Par contre, c'est sûr qu'on a l'avantage de la proximité dans des quartiers parfois fort peuplés d'écoles. Autre exemple. Et puis là, les deux dernières, donc la médiathèque Croix-Rouge, où on a vraiment beaucoup plus de place pour les collections, mais aussi des lieux d'animation. Et d'ailleurs, là, vous avez ici une structure que nous avons commandée à une plasticienne pour justement avoir un petit espace de découverte du livre pour les 0-3 ans. Donc on lui avait donné un cahier des charges et elle a imaginé cette structure, voilà, qui est un peu sonarisée avec des livres, qui est entre le tapis de jeu et le tapis d'éveil à la lecture, qui fonctionne pas mal. Voilà, donc la bibliothèque Croix-Rouge et là la médiathèque Falala, où je vous disais ce fameux escalier de progression dans la vie, lorsque on a on passe de Benjamin en junior. L'espace des petits, donc avec les albums pour l'espace Benjamin, avec l'heure du conte qui est devenu l'espace pour les tout petits. Et puis donc au-dessus, l'espace pour les plus grands, 7-13 ans. Avec un mobilier, là on a opté pour un mobilier adulte. C'est-à-dire qu'effectivement, à ce moment-là, on considère que le format peut être le même que le format adulte. Mais du coup, c'est un peu austère peut-être. Alors... Venu d'auteur jeunesse, donc ici Tony Ross, David Mackie, et qui nous laisse des souvenirs aussi à la bibliothèque. On leur demande d'intervenir, de dessiner sur nos murs, et donc ils nous laissent des autographes, ils rencontrent donc nos scolaires. Voilà. Et alors le Primé des écoliers, là c'était aussi l'idée qu'on voulait travailler autrement avec les enseignants. Et donc on avait fait une proposition au cycle 3, donc au CE2, CM1, CM2, et on a créé notre propre prix en leur proposant en fait 5 ouvrages qui sont sélectionnés par les bibliothécaires, et ce que je trouve intéressant parce que voilà, elles échangent déjà entre elles sur les livres qu'elles ont beaucoup aimés de l'année précédente. Elles se mettent d'accord sur 5 ouvrages qui sont proposés à la lecture pour les classes. Les classes sont invitées à venir 3 fois à la bibliothèque, toujours ce chiffre 3, avec première visite, présentation des 5 livres. Deuxième visite, présentation des 5 auteurs et du reste de leur œuvre. Et puis, un troisième temps fort qui est la séance du vote. Et donc qui donne lieu à voilà à des choses vraiment intéressantes. Les enseignants nous disent que pour beaucoup c'est vraiment la découverte de la démocratie. On emprunte des vraies urnes au service des élections et il y a vraiment un isoloir, il y a une liste d'émargement, il y a un dépouillement et à travers cela, c'est à la fois on parle de littérature jeunesse mais c'est aussi pour les enseignants une façon de s'intéresser à un fonctionnement de groupe et de démocratie. Donc on a eu 2 éditions de ce prix des écoliers. En 2008-2009, on avait, je pense que vous le connaissez, ils avaient choisi Gros Dodo d'Hélène Vignal, qui est un livre qui parle pas de sujets faciles, sans dire livre béquille, mais c'est un livre donc qui parle d'une maman qui est tombée dans le coma et de la façon dont ses petites filles vont réagir. Bon, ça se termine bien, hein, bien sûr. Donc, et lorsque la remise des prix a lieu, l'auteur est invité et on s'arrange pour qu'elle rencontre l'ensemble des enfants. On a 45 classes qui ont participé. On a organisé une grande remise des prix dans un amphi du conservatoire de musique, hein, qui est beaucoup plus grand que le nôtre. Et l'auteur s'est prêté à un jeu de questions-réponses avec les enfants. Donc il s'est vraiment passé quelque chose tout au long de l'année avec ces classes-là, avec les bibliothécaires, une vraie relation entre les bibliothécaires et les enseignants, et enfin une vraie relation courte bien sûr, mais entre un auteur et son public qui avait lu et choisi son livre, ou pas d'ailleurs, puisque dans le public il y avait aussi des gens qui avaient voté pour d'autres livres. Et donc la deuxième édition avait retenu Le secret de grand-oncle Arthur de Véronique Delamarre. Voilà, donc il est possible, hein, c'est vrai, de trouver à travailler autrement avec les écoles. Et nous avons surtout cette possibilité avec l'animation. Alors, beaucoup plus classique, par contre, l'action qu'on a avec nos bibliobus, vous avez dû voir passer un de ces bibliobus dans les photos, ça paraît d'un autre âge. Pour nous aussi, en fait, on a encore donc 2 bibliobus qui vont vraiment dans les écoles primaires et maternelles, qui stationnent dans la cour et les classes arrivent les unes après les autres, montent dans le bibliobus, prennent des livres et repartent avec ces livres. Alors, on avait pensé arrêter ce service à l'occasion de l'ouverture des médiathèques, en se disant, les médiathèques vont déjà avoir une offre plus importante dans des quartiers où il n'y avait pas forcément de bibliothèque avant, donc voilà. Et puis, surtout, il y a les BCD, il y a des emplois jeunes, on va pouvoir arrêter ça, puisque les écoles auront des services dignes de ce nom dans leurs établissements. Eh bien, hélas, point du tout. Car je pense qu'à Reims, comme chez vous, les BCD, avec la disparition des emplois jeunes, sont revenus à un niveau, je voudrais pas généraliser, mais pour beaucoup, proche de zéro. On a fait d'ailleurs avec le service éducation une enquête dont on va pouvoir dépouiller les résultats cette année et qui montre bien que en fait c'est complètement désorganisé. Autant les CDI, je rejoins l'avis tout à l'heure de la collègue qui disait en collège ou en lycée c'est moins stratégique parce qu'il y a vraiment des CDI. Autant dans le primaire, et c'est je trouve complètement criminel, le réseau des BCD c'est la catastrophe. Ils n'ont absolument plus personne pour s'en occuper avec la disparition et le non-renouvellement des emplois jeunes. Ils n'ont pas d'argent pour acheter des livres, ce qui fait par exemple que nous on organise une braderie depuis 2 ans pour vendre nos livres désherbés. On a des enseignants qui incognito viennent et essayent d'acheter 10 livres par 10 livres pour remplir leur BCD, mais là on se dit on est quand même tombé sur la tête. Et puis surtout il n'y a pas de formation et donc on voit pas très bien comment ces BCD vont pouvoir donner des résultats. Et c'est vraiment ennuyeux parce que du coup, comme nos bibliothécaires jeunesse sont extrêmement motivés, elles se disent on peut pas se désengager parce que dans certains quartiers, si elles ne viennent pas avec leur bibliobus dans les écoles, ça veut dire 0 présence de livres dans ces foyers. Voilà. Alors, dernier public que nous touchons, le public adulte, et notamment les professionnels de l'enfance. C'est vrai qu'en secteur jeunesse, il ne faut pas oublier le public adulte. Alors, il y a le public des parents, on en a parlé ce matin. Il y a les enseignants, je viens d'en parler. Hein, je vois que mes collègues jeunesse, soit les encensent, soit les vouent aux gémonies, suivant que ce soit un bon enseignant, un mauvais enseignant. Et puis, il y a les professionnels de la petite enfance. Et je pense qu'on a vraiment une mission à faire valoir et à faire entendre de spécialistes de la littérature jeunesse auprès des enseignants et auprès des spécialistes de la petite enfance. Malheureusement, enfin, je ne sais pas pour vous, dans vos régions, on est beaucoup trop peu invités à intervenir dans les formations IUFM. Enfin, vous me direz pour ce que représentent aujourd'hui les formations IUFM. Mais c'est bien dommage. Et puis, c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, grâce à cette action Petite Enfance, on commence à pouvoir être à nouveau présent auprès des professionnels en PMI, en crèche. C'est une action intéressante. Et puis, nous, à Reims, on avait identifié un deuxième public potentiel qui était les ATSEM, ces assistantes dans les écoles qui s'occupent de plus en plus du temps périscolaire, c'est-à-dire le matin, pendant le temps de déjeuner ou l'après-midi. Et il nous semblait que voilà, c'est notre rôle aussi de leur montrer que dans toutes les activités qu'elles peuvent faire, il y a aussi des activités avec le livre et comment elles peuvent utiliser ce livre, etc. Ça, c'est vraiment toute une pédagogie à faire. Et alors là, on n'a pas tardé à voir qu'il y avait des freins, notamment des enseignants. C'est-à-dire que les maîtresses en maternelle, elles disent « le livre, c'est nous ». Le livre, c'est la lecture, le livre, c'est nous. Et pourquoi est-ce que les ATSEM, elles seraient formées à être médiatrice de livres, alors que nous-mêmes, nous ne le sommes pas vraiment, et que c'est à nous d'enseigner le livre. Alors, je ne peux pas prétendre avoir résolu cette question, mais on va tenir bon et continuer à essayer de mettre en place ces formations pour les ATSEM, parce qu'il nous semblait que voilà, ça serait vraiment déjà un premier niveau de passage de relais de cette action auprès des tout-petits. Alors ensuite, je disais que donc les bibliothécaires jeunesse, c'est une médiation entre un public et des collections. Alors parlons peut-être un peu des collections. Les collections jeunesse, c'est beaucoup à la bibliothèque de Reims. En 2009, 44% des livres achetés étaient des livres jeunesse. Même s'ils sont moins chers en moyenne que les documents pour adultes, ils représentent une bonne part de notre budget d'acquisition. Avec, c'est vrai, la problématique des rachats. En termes de collection, aujourd'hui, 42% des livres en libre accès sont des documents jeunesse, en titre comme en exemplaire. Alors, ces collections, c'est vrai, ont également de très gros taux de rotation, on en parlait à midi. Dans le domaine des prêts, 46% des prêts de livres sont des prêts jeunesse. Avec une quasi-parité dans ce domaine-là, donc entre pré-adultes et pré-jeunesse. Et quand on regarde par contre pour les autres supports, on a un total décrochement puisque les prêts de vidéo, 26% sont des pré-jeunesse, et les prêts de musique ou de disques, alors que on a des disques pour les enfants, représentent 5% seulement sont des pré-jeunesse. Donc on voit quand même qu'en bibliothèque, quand les enfants viennent, c'est quand même plutôt pour consommer du livre que d'autres supports, même si on a toujours l'impression qu'ils sont nés avec des films, de la musique, etc. Ben, il n'empêche que dans nos lieux, c'est quand même plutôt cette offre traditionnelle qu'ils viennent rechercher. Alors d'ailleurs, ça pose tellement de problèmes au niveau des discothécaires que nos discothécaires sont en train de réfléchir à des projets d'animation pour essayer de faire en sorte de connecter les jeunes et la musique et surtout de leur présenter une offre plus diversifiée que celle qu'ils peuvent avoir avec la télévision et toujours les mêmes titres qui leur passent en boucle ou sur les radios. Alors, c'est vrai que les bibliothécaires achètent, cataloguent des documents, ils composent des fonds les plus éclectiques possibles. Moi, je trouve que quand même nos collègues jeunesse s'impliquent beaucoup dans ces constitutions de collection. Ils ont le grand mérite de lire les livres qu'ils achètent. Au contraire des bibliothécaires adultes, je crois, ils ne se contentent pas de lire les critiques, mais ils lisent vraiment les livres. Alors c'est vrai qu'ils sont aidés, hein, les livres sont plus courts, mais moi ce qui m'a ravi à chaque fois, c'est que ils sont également, je trouve, du coup, plus légitimes et plus crédibles quand ils font un conseil, parce que eux, ils ont vraiment lu les documents qu'ils proposent. Ce que je remarque aussi en termes de collection, c'est que les bibliothécaires se posent beaucoup, beaucoup de questions, les bibliothécaires jeunesse, sur le niveau du livre. Nous, on raisonne toujours en pastilles. Alors, on met des pastilles pour les livres lecture facile. Dans d'autres, on met des pastilles pour les livres un peu pour les plus grands et les ados, des livres passerelles. Alors bon, je ne sais pas si le public se retrouve toujours dans toutes ces pastilles, mais ça témoigne indéniablement d'une vraie recherche d'adéquation entre le public et le livre qui pourra lui correspondre. Les bibliothécaires jeunesse sont aussi obligés parfois de faire des choses que les bibliothécaires adultes ne font pas, comme par exemple indexer les fictions. Toujours dans cet objectif de trouver les livres qui parlent de. La dernière fois que je faisais du service public, une grand-mère, c'est vrai qu'il y a aussi les grands-parents, une grand-mère qui allait emmener ses enfants, ses petits-enfants en vacances dans un camping, me disait, est-ce que vous avez des livres qui parlent de la caravane, des tentes et des campings pour qu'on aborde ça avec mes petits-enfants? Je ne sais pas s'il y avait une peur du camping, mais enfin, c'est vrai que du coup, nos bibliothécaires sont parfois obligés de chercher à indexer des choses que les adultes ont depuis bien longtemps renoncé à indexer. En ce qui concerne l'aspect petite médiathèque, nous à Reims, c'est vrai qu'on a aussi, donc à côté des livres et des périodiques, des documents vidéo et audio, et on a quand même souvent des collègues qui sont un peu spécialisés dans tel ou tel domaine, notamment dans le domaine de la vidéo. Et puis, dernier aspect, mais je ne développerai bien sûr pas, la question de la conservation de ces fonds jeunesse. À Reims, on pense que ces collections ont de la valeur, et donc depuis quelques années, on a rompu avec sa tradition de non-conservation des fonds jeunesse. On s'est lancé dans un plan de conservation partagé en Champagne-Ardenne qui fait un peu sourire parce qu'en fait, le principe, c'était que chaque bibliothèque retenait une thématique qui lui était chère par son histoire personnelle. Alors, ça fait un peu inventaire à l'après-vert. Je le dis pour les bibliothécaires qui sont dans la salle et qui vont faire du désherbage. Nous, à Reims, on s'intéresse aux romans policiers pour la jeunesse parce qu'on s'intéresse aux romans policiers pour adultes. On s'intéresse au théâtre jeune public parce qu'on a un bon festival de spectacles jeune public. Et on s'intéresse aux livres en rapport avec les rois, reines, princes et princesses du fait de notre passé de ville des sacres. Voilà. Donc si vous désherbez ce type d'ouvrage, voilà, pensez à nous, on est intéressés et on a bien l'intention de le valoriser. Alors animation, j'en ai déjà abondamment parlé, c'est vrai que dans le domaine de l'animation, je trouve que c'est vraiment un secteur qui est très très porteur, le secteur jeunesse. D'ailleurs, 47% de nos animations sont destinées au public jeunesse. Et surtout, les bibliothécaires jeunesse sont nettement plus directement impliquées, puisqu'elles portent beaucoup de ces rendez-vous. Alors que quand on fait de l'animation, souvent, on se contente de faire venir un professionnel. Dans le domaine de l'animation jeunesse, point du tout. Elles mettent vraiment la main à la pâte. Alors, on a toute la panoplie, heure du conte, lecture d'albums, club philo... conte doublé en langue des signes, puisque nous avons la chance d'avoir un collègue et donc on fait ces animations une fois par mois doublées en langue des signes. Enfin voilà, toute une panoplie que vous retrouvez dans nos programmes. Donc si telle ou telle chose vous intéresse, voilà. J'ai plus beaucoup de temps, je pense.
Non, mais Est-ce que vous laissez
5 minutes pour évoquer peut-être les compétences qui sont requises derrière tout ça et comment on les entretient? Alors, on a 23 agents hein, sur les 110 que compte la bibliothèque qui sont vraiment intervenants dans le domaine de la jeunesse. Ils ont une vraie spécificité de mon point de vue et quand je déclare, moi, dans les petites annonces, vraiment des profils de bibliothécaires jeunesse. C'est vrai que je déplore aussi l'absence du CAFB. Même si pour moi ça relève maintenant presque du mythe parce que j'ai de moins en moins de gens qui ont la chance de l'avoir. Par contre, j'ai la chance d'avoir une grande équipe, donc j'ai un passage de relais entre des gens qui ont été formés à cette école et les plus jeunes, mais je me mets à la place d'équipes plus restreintes hein, où là vous avez des gens qui sont parfois tout seuls et qui n'ont pas ce transfert de compétences et ça me paraît dommage. Ce qui nous permet d'entretenir également ce transfert d'informations. On a un gros travail en réseau. On a une réunion tous les 3 mois, uniquement des bibliothécaires jeunesse qui travaillent au sein de notre réseau pour qu'ils échangent sur leurs problématiques. Souvent, d'ailleurs, ce sont des problématiques en rapport avec les scolaires, mais pas seulement, sur leurs animations en commun, etc. Et je pense que c'est extrêmement important de pouvoir continuer à échanger de la sorte. Et puis enfin, un gros travail de formation continue, donc je ne reviendrai pas là-dessus. C'est vrai que moi, là encore posée un peu décentrée, je trouve qu'il y a une offre extrêmement abondante et surtout ce qui m'amuse toujours, c'est qu'elles sont extrêmement demandeuses. C'est parmi les collègues qui demandent le plus de formation, ce sont les collègues de bibliothèque jeunesse. Alors le problème effectivement, c'est quand même cet éclectisme des formations qui leur sont proposées et qui forment pas forcément un programme extrêmement extrêmement cohérent. On a la chance aussi d'avoir un bon festival avec le Salon du Livre Jeunesse de Troyes où on n'est pas très loin de Montreuil non plus, donc la présence au salon est importante, mais on souffre quand même de, et elles nous le disent régulièrement, d'absence de contenu plus fédéré, plus conçu dans son ensemble. Voilà, je vous remercie.